بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يذرك بشيء لم يذرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وأحمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tout d'abord, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de se réunir ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous a comblés de beaucoup de bienfaits. On peut passer notre temps entier, notre vie entière à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cela n'est pas suffisant. Parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il nous a donné la santé. Parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il a donné iman. Et parmi les autres bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordés, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une famille. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une épouse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la santé, une maison, travail, voiture, etc. Bref, beaucoup de bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné. Et si l'homme il va s'y mettre à remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur les bienfaits, il ne pourra pas comme il se doit. Ou Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit: la in shakartum la azidannakum. Hein? Si vous allez remercier les bienfaits d'Allah, Allah il va octroyer, il va augmenter sur vous les bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous allez énumérer les bienfaits d'Allah, alors vous ne serez pas capable de les énumérer tous. Et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné, il donne au couple, ce sont des enfants. Alors les enfants, il faut bien comprendre, c'est un dépôt de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait donc, dans le mot éducation des enfants, le thème, hein, que c'est l'éducation des enfants. Alors c'est l'éducation des enfants à la façon islamique. Il y a un, c'est le mot quelqu'un, un père de famille ou une maman, il va éduquer ses enfants comme elle, elle pense, cette maman, comme le père, il pense. Ça, c'est l'éducation des enfants. On peut prendre même un livre dans le supermarché, les hypermarchés, on achète, on va voir comment éduquer ses enfants. J'éduque mon enfant, j'élève mon enfant. Ils ont écrit, ces gens-là, des livres sur l'éducation des enfants. Un, c'est l'éducation des enfants à la façon islamique. Ce que Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il me l'a montré, il m'a enseigné. Allah et son Rasoul m'ont enseigné comment éduquer son enfant à la façon islamique. Et donc les enfants peuvent devenir la fraîcheur des yeux des parents. Et donc on va voir maintenant, dans l'éducation des enfants, il y a le mot éduquer. Éduquer comme qui, comme quoi, qui me montre. Pour pouvoir éduquer, il faut être soi-même un éducateur. Et pour pouvoir être un éducateur, il faut que soi-même on a été éduqué.
On était dans la compagnie des ulama et haq. On est parti les voir, nous sommes partis les voir, ces ulama, et on nous a demandé, on les a demandé comment s'éduquer soi-même. Ces ulama et haq, ils nous ont expliqué comment s'éduquer, parce que s'éduquer, ça je ne crois pas si c'est possible. Quelqu'un ne peut pas s'éduquer soi-même. Il a besoin de rester déjà dans la compagnie des ulama et haq, des gens pieux, pour pouvoir connaître ce que le Coran et le Hadith lui dit, pour que lui ensuite il va pouvoir donner à ses enfants ce qu'il a en lui pour éduquer ses enfants. Parce que c'est malheureux de voir, ulama ils expliquent, ils donnent l'exemple, une fois un alim sud-africain il donne cet exemple, il dit comment voulez-vous que ce père, que lui-même il n'a pas d'hymne, ou cette maman lui-même elle n'a pas d'hymne, et ils emmènent leurs enfants promener, si on regarde cette image là, comment, quelle éducation ce père il va donner à son enfant que lui-même il n'a pas d'hymne. Cet enfant-là, il est victime, les enfants sont victimes, ils ne sont pas fautifs. Pourquoi ? Parce que le père, il n'a pas d'hymne. Alors donc, c'est éduquer. Éduquer comment ? Comme Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré. Éduquer, inculquer, donner des bonnes manières. Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, les conseils des ulama. Ensuite, il y a le mot enfant, qui dit enfant, dit bienfait de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un ni'mat qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un couple, ce sont des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Ash-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا. Il donne à qui il veut des filles. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا. Et il donne à qui il veut des garçons. On va trouver des couples, ils n'ont que des filles. On va trouver des couples, ils n'ont que des garçons. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا, ou bien il les accorde des filles et des garçons aussi. Ça aussi c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويجعل من يشاء عقيما, et Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut avec certaines personnes, certaines femmes. Allah subhanahu wa ta'ala fait de ces femmes, elles sont stériles. إنه عليم قدير, c'est il est connaisseur, à qui il donne des filles, il sait mieux. Ce couple-là, ils ont besoin de filles. Ce genre de couple, ces couples-là, que de garçons, c'est bon pour eux. Et Allah, il est qadir, il a le pouvoir sur toute chose. Sourate Ash-Shura. Donc, en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Lui-même, quand il parle, il dit Yahabu. Yahabu qui veut dire il donne, il offre, il donne. Que soi-même, l'homme, il est incapable de faire un enfant. Et malheureusement, dans le jargon de nos jours, dans notre langage à nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « fais-moi un enfant ». Que ce soit la femme, elle va dire à son mari que « fais-moi un enfant ». Ou le mari dit « tiens, ce soir, on va faire un enfant ». Alors un enfant, on n'est pas capable de faire. Si on était capable de faire un enfant, déjà les ongles de l'homme, on ne peut même pas imiter. On peut imiter ? On peut faire en plastique peut-être ? Sur des poupées ou autres, mannequins et autres, il y a des ongles en plastique, mais les ongles normales, naturelles, on ne peut pas faire. Si les ongles, j'arrive pas à faire. Si cheveux, je ne peux pas reproduire, recréer la même chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Comment un enfant peut créer ? Ce n'est pas possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans surat Al-Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Afara'aytum ma tumnoun » Voyez-vous donc, est-ce que vous ne voyez pas ce que vous éjaculez ?« A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun » Il dit « Est-ce que c'est vous ?» c'est vous qui avez créé ces enfants-là, ou bien sommes-nous les créateurs ? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui crée. C'est Allah qui donne des enfants. C'est Allah qui va donner une fille. C'est Allah qui va donner un garçon. Et maintenant, pour pouvoir avoir des enfants, quels sont les asbab ? Que doit-on faire pour avoir des enfants ? Alors, bien sûr, il y a tout d'abord chaque couple, chaque personne, quand il se marie, un moment de sa vie, peut-être... déjà, il faut se renseigner auprès de ulama en ce qui concerne les masaïls de la pilule, etc. Pour retarder ou ne pas avoir des enfants, etc. Dans des cas, c'est autorisé. Et dans des cas, ce n'est pas autorisé dans l'islam. Ça, il faut se rapprocher des ulama. Ensuite, le couple, à un moment de sa vie, de leur vie donc, ils ont un désir d'avoir des enfants. Et ce n'est pas interdit. Bien sûr, il faut avoir ce désir. Mais ce n'est pas seulement avoir des enfants. Il faut souhaiter avoir des enfants pieux. Parce que avoir des enfants, si ces enfants ne sont pas pieux, au lieu d'être une source de bien pour les enfants, c'est une source de mal pour les enfants. Avoir des enfants n'est pas un signe de réussite d'un couple également. Avoir des enfants. Moussa alayhi salat wa salam et Khidr alayhi salat wa salam, ils traversent. Hein, Moussa alayhi salat wa salam, il est dans la compagnie de Khidr alayhi salat wa salam. Il demande de rester dans la compagnie de ce prophète-là. Et pendant leur séjour, ils arrivent à un endroit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné à Moussa, à Khidr alayhi salat wa salam, hein, il a informé Khidr alayhi salat wa salam à un moment voulu précis de faire une action que Moussa alayhi salat wa salam ne pouvait pas comprendre cette action. Entre autres, ils sont arrivés à un endroit, فَانْتَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَا قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْلِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُقْرًا. Ils arrivent à un endroit, dans un village, Moussa alayhi salat wa salam et Khidr alayhi salat wa salam, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de marcher plutôt. Et ils voient des enfants en train de jouer. Khidr alayhi salat wa salam, il se présente devant un enfant, il pose la main sur la tête de l'enfant, il arrache la tête de l'enfant. Il tue cet enfant. Alors, Moussa alayhi salat wa salam, il n'a pas pu supporter cela. Il a fait objection sur l'axe de Khidr alayhi salat wa salam. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hatta idha laqiya ghulaman » jusqu'à ce que eux deux, les deux, ils ont rencontré un enfant. « Faqatalahu » Khidr l'a tué. Alors, Moussa alayhi salat wa salam ne pouvait pas rester silencieux. Et c'est le devoir d'un alim quand il voit, sur ce verset-là, les ulama, ils ont extirpé ce masla, istinbat de ce masla, quand quelqu'un, quand un savant, il voit quelque chose qui est fait devant ses yeux, qui est contre la charia, il ne doit pas rester silencieux. Il doit mettre objection. Et Moussa alayhi salat wa salam, il ne comprend pas comment il peut tuer un enfant. Alors il a fait objection. Qala aqatalta nafsan zakiya. Subhanallah. Tu es en train de tuer. Tu as tué un enfant qui est pur, innocent. Bireli nafsi. Un enfant qui est innocent, qui est pur. Laqad ji'ta shay'an nukra. Alors c'est certainement, tu as fait quelque chose de monstrueuse, de affreuse. C'est grave. Comment est-ce possible? Et bref, plus tard donc, Khidr alayhi salat wa salam, il explique pourquoi il a tué l'enfant. Pourquoi il a tué l'enfant. Et Khidr alayhi salat wa salam, il donne la cause qu'il a tué cet enfant-là par rapport à que cet enfant, il allait grandir. Et il allait grandir, cet enfant allait devenir un non-croyant. Premièrement, et deuxièmement, cet enfant aurait plus tard poussé les parents à quitter l'islam. À quitter l'islam, et que les parents auraient été devenus non-croyants, mouchrik. Pour cette raison-là, Allah a ordonné Moussa alayhi salat, Khidr alayhi salat, tout simplement de tuer cet enfant. Parce que plus tard, cet enfant aurait été une source de, subhanallah, que les parents y perdent digne. Allah, il a voulu le bien pour, subhanallah, pour ce couple-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Khidr alayhi salat wa salam de le tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en échange de ce fils, il a donné au couple une fille. Et de ce fille, les commentateurs du Coran, ils expliquent maintenant, de ce fille est née, elle a grandi. Les commentateurs de Coran ont expliqué avec, hein, à partir de cette fille-là. Hein, elle a grandi, la fille. Elle s'est mariée. Et de cette union est né un enfant que plus tard est devenu prophète. Alayhi salat wa salam. Donc, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse. Wallah subhanahu, Khidr alayhi salat wa salam dit. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Il dit, en ce qui concerne l'enfant, les parents de l'enfant étaient croyants et donc on a eu peur que cet enfant, il allait être la cause que les parents allaient quitter l'islam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ainsi. Donc on comprend que quand Allah donne des fils, c'est ici quelle sagesse il y a. Et quand Allah ne donne que des filles, il sait quelle sagesse aussi il y a. Et quand Allah donne les deux aussi, il sait quelle sagesse il y a. Maintenant, chaque couple, il a ce vouloir, ce désir d'avoir des enfants. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des enfants pieux. Ce vouloir d'avoir des enfants pieux. Que ce soit l'épouse, que ce soit le mari, c'est de faire ce désir-là en premier. Et pour avoir ce désir-là, tout commence par le dua. Il faut qu'en premier, on arrive à faire dua. On se marie et les premiers jours de mariage après, le couple commence à faire dua que Allah accorde-nous des enfants pieux. Et donc, si on regarde les Anbiya alayhi salatu wa salam dans le Coran, donc ils ont demandé à Allah d'avoir des enfants pieux. Si les Anbiya alayhi salatu wa salam, ils ont demandé à Allah d'avoir des enfants pieux, ben nous on n'a pas besoin de demander à Allah. Et Ibrahim alayhi salatu wa salam, il s'est adressé à Allah, il a fait un dua plusieurs fois, donc il a dit Rabbi habli minas salihin. Et Allah, accorde-moi des enfants pieux. Accorde-moi des enfants, Rabbi habli. On voit toujours le mot hab. Yahabu liman yasha ou wahaba. C'est le verbe wahaba. Il y a un frère parmi nous qui comprend ce verbe-là. Wahaba, c'est donner, offrir. C'est un verbe qui est au passé. Donc, Rabbi habli minas salihin. Et Allah, accorde-moi des enfants pieux. Alors, tout d'abord, on doit, pour pouvoir avoir des enfants pieux, parce que les gens, ils se plaignent aujourd'hui, les enfants sont désobéissants, les enfants n'écoutent plus, etc. Alors, ils sont dépassés, ils n'arrivent plus à éduquer les enfants. C'est tout à fait normal qu'ils n'arrivent plus à éduquer les enfants, et c'est tout à fait normal qu'on se plaint que les enfants deviennent désobéissants. Pourquoi ? Parce que la conception de l'enfant, depuis le début même, a été faite sur des mauvaises bases. L'exemple qu'on donne, les ulama, ils donnent, il dit le couple, ils n'accomplissent pas la salat al-isha, déjà. Et ils sont devant leur écran, place-moi. Et ils sont en train d'observer ce qu'il y a dans cet écran de shaitan box de place-moi. En train de regarder des fois des choses qui ne sont pas permises même à regarder. Et là, après avoir regardé ce film, alors ils vont s'endormir bien sûr, ils vont envoyer des rapports intimes. Un, salat al-isha n'a pas été fait. Deuxièmement, avant de dormir, ils étaient dans péché, regardez, ils étaient devant leur écran, place-moi. Troisièmement, avant d'avoir des rapports intimes, il n'y a pas eu dua. Et quatrièmement, salat al-fajr, le couple, ni l'épouse, ni le mari, ni la femme vont accomplir salat al-fajr. Et de cette union-là, ça risque d'avoir des enfants et les enfants qui naissent. Mais si la base, elle est faussée, la base n'est pas correcte. Alors, est-ce qu'on peut espérer plus tard des enfants pieux? Si on se plaint que les enfants n'écoutent plus, les enfants difficiles à éduquer, c'est pas comme avant. Avant nos mères, avant nos grand-mères, elles n'étaient pas devant l'écran place-moi. Elles ne faisaient pas, elles désobéissaient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, premièrement, on a vu donc, c'est de faire dua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Deuxièmement, si on regarde Zakaria alayhi salatu wa salam, lui aussi il a fait dua. Quand il a vu auprès de Maryam alayhi salatu wa salam des fruits hors saison, alors il a compris que Allah nourrit Maryam alayhi salatu wa salam hors saison. Et lui-même il est hors saison. Il était âgé plus de 100 et quelques années, 120 ans ou 90 ans dans cette riwayat il y a. Et sa femme était stérile. Mais il a fait dua, il a compris, parce que tout dua c'est de la conviction, c'est yaqin sur Allah, que Allah il ne dépend pas de base, ou ne dépend pas de asbab, de cause, moyen, effet. Et quel dua il fait? Huna alika da'a Zakaria rabba. C'est à ce moment-là que Zakaria alayhi salatu wa salam il fait dua. Qu'est-ce qu'il dit? Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud dua. C'est un dua que tout le monde doit apprendre. C'est un dua que les couples doivent apprendre, ce dua-là. Qu'est-ce qu'il dit? Qala rabbi habli, Allah accorde-moi, min ladunka dhurriyatan tayyiba. Une progéniture pure émanant de toi. Accorde-moi des enfants pieux émanant de toi. Innaka sami'u du'a. Certainement tu entends des du'a. Tu entends les invocations toi. Alors on doit faire du'a, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire du'a, demander à Allah qu'il nous accorde des enfants pieux. Tout commence par du'a. Ensuite, deuxième condition pour avoir des enfants pieux, c'est qu'il ne faut pas oublier d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment des rapports conjugaux. Au moment des rapports intimes, alors on peut se poser la question, mais regardez l'islam, la beauté de l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne cela. que là aussi, à ce moment-là aussi, il faut faire dua, afin qu'il n'y ait pas l'effet de shaitan, afin que cet enfant que Allah il va donner, il ne soit pas sous l'emprise de shaitan. Hein? Et dans un hadith donc rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qui dit, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجي كرسول صلى الله عليه وسلم يجي si l'un d'entre vous désire venir auprès de sa famille avoir des rapports intimes des rapports conjugaux auprès de sa famille alors qu'il dit bismillahi va répéter le doigt doucement bismillahi allahumma jannibna الشيطان وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ Et Allah, protège-nous de shaitan. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا Et ce que tu vas nous accorder, protège shaitan de ce que tu vas nous accorder, ces enfants-là. Fasse que ces enfants protègent nos enfants de shaitan, les enfants que tu vas nous accorder. Alors donc, c'est un droit qu'il faut apprendre. Il y a quelques jours de cela, après le programme à la plaine, au Darroum, à la journée de la famille, le lendemain, une personne, hein, on était en train de marcher sur la route, il nous a vu, il a garé sa voiture, il dit, maintenant j'ai une question à vous poser, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas écrire le droit pour moi? D'accord, on a entendu, première fois, des années, il était marié, et on a écrit le droit pour lui, il est parti, il était content. Hein? Et c'est un droit qu'il ne faut pas négliger, ce droit-là. Il faut apprendre ce droit. Que ce soit l'épouse, que ce soit l'époux, que ce soit le mari, que ce soit la femme. On doit apprendre le droit de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne sait pas en arabe, au moins on fait droit en français. Et Allah protège nous. Ça, c'est une chose qui est très importante. Ensuite, alors donc, on va faire droit au moment des rapports. Et un enfant, c'est très important de donner une bonne éducation à l'enfant. Hazrat Maulana Muhammad Ilyas Barabankawi, Hafizahullah de Nizamuddin, il dit donc que ses oustaz à lui, ses professeurs à lui disaient que un enfant, c'est comme un arbre. Si on arrose bien, hein, on veille bien, on met l'eau, la quantité qu'il faut, on soigne cet arbre, on veille bien, on plante bien, on arrose, on laboue, etc. Alors il va bien pousser. Et quand cet arbre va bien pousser, alors ce sera profitable pour les humains. Ils vont gagner les fruits, ils vont pouvoir manger, l'ombre, etc. Les bois même, ils vont couper ces bois-là, ils vont faire des maisons avec, ils vont faire des belles maisons avec. Ça va même, l'homme, cet être humain, il va utiliser pour pouvoir tirer profit de cet arbre-là. Et tandis que si l'arbre pousse tôt, alors cet arbre qui pousse tôt est d'aucune utilité. L'enfant qui va pousser tôt, l'enfant qui pousse droit, la Ummah va tirer profit de lui, et l'enfant qui pousse tôt, alors c'est comme cet arbre qui pousse tôt là, à un certain moment on est obligé d'abattre cet arbre, prendre les bois, brûler les bois. Si l'enfant pousse tôt, alors automatiquement ces enfants-là seront une source de malheur pour les parents et ça risque, Allah protège tout le monde, d'emmener les enfants, hein, les enfants seront une source qu'il va emmener ses parents dans l'enfer. Ensuite, Hazrat Muhammad Ilyas Barabankawi, hafizahullah, il donne un deuxième exemple, il dit éduquer, le mot éduquer vient de Rabsa, Allah il est Rabbul Alamin, Allah il est le Rab, il est l'éducateur. Il est celui qui fait le tarbiya. En ourdou, dit tarbiyatul awlad, l'éducation des enfants, éduquer ses enfants. Le vrai tarbiya, la vraie éducation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, la piété des enfants vont dépendre de la piété des parents. Pour avoir des enfants pieux, il faut que les parents eux-mêmes, ils sont pieux. Il faut que la maman, elle est pieuse pour que l'enfant devienne pieux. Il faut que le papa soit pieux pour que l'enfant devienne pieux. Ce n'est pas seulement hein, la maman, elle est pieuse et le père, il n'est pas pieux. Non, les deux marchent ensemble. La maman doit être pieuse et l'enfant doit être, le père doit être pieux également. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la règle. Il y a des exceptions à la règle également qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire autrement. Si on regarde donc, la piété des enfants dépend de la piété de leurs parents et bien sûr de la maman, etc. et du père. Cela on voit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا » C'est le récit de Moussa alayhi salatu wa salam, toujours avec Khidr alayhi salatu wa salam. Ils arrivent dans un pays où ils sont affamés, assoiffés, etc. Et ils demandent l'hospitalité aux gens de ce pays, ils demandent de quoi manger, de quoi boire. Dans Surat al-Kahf, 15e supara, là on est au 16e supara, au début de 16e. Alors, ces gens-là refusent de donner l'hospitalité. Ils refusent de donner à manger. Alors ils retournent, Moussa alayhi salatu wa salam et Khidr alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'ils voient? Un grand mur qui surplombe la ville. Un grand mur. Et ce mur, Allah, il décrit ce mur, yuridu an yanqadha. C'est comme si ça allait tomber, Allah ta'ala dit. Fa'aqama, il a redressé ce mur. Alors Moussa alayhi salatu wa salam, il fait objection. Il dit, oh Khidr, tu redresses le mur, c'est un fait. Mais demande-les maintenant, par rapport à ce que tu viens de faire, une rémunération, ou bien la nourriture, etc., un salaire. Alors Moussa, Khidr alayhi salatu wa salam, dit, je sais ce que je fais. Plus tard, il explique pourquoi il a redressé le mur. Il dit, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Il dit, à ce qui concerne le mur que j'ai redressé, sur ce mur-là, وَكَانَ تَحْتَهُ, dessous ce mur, il y avait كَنْزٌ. Il y avait un trésor qui appartenait aux deux enfants. لِغُلَامَيْنِ, à deux orphelins. Deux enfants, yatimain, orphelins, fil Madina, dans cette ville. Wa kana abuhuma saliha. Et le père des deux enfants était pieux. S'il n'avait pas redressé ce mur aurait tombé et les gens auraient vu ce trésor, ils auraient pillé, volé ce trésor. Tandis qu'il a redressé, Allah il a voulu que l'enfant grandisse, ils atteignent l'âge de la maturité. Plus tard, après, ils ont pu retirer. Creuser, retirer, reprendre leur trésor. Et Allah Ta'ala dit, وَكَانَ أَبُوهُمَا, et le père des deux enfants, صَالِحَا, il était pieux. Et donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala, la piété des enfants a agi sur les progénitures qui sont venues après. Certains commentateurs du Coran disent, c'était même pas les enfants, c'était les petits-enfants également. Petits-enfants, waïa petits-enfants. Tellement ça affecte la piété des parents, que même les progénitures, les enfants, des petits-enfants qui vont venir, les générations qui vont venir, alors ces générations-là, ils auront dîn à cause, bien sûr, de la piété des parents. Ensuite, ça c'est une chose. Un autre point très important, pour avoir des enfants pieux. Pour avoir des enfants pieux, il faut que chaque parent, chaque mère et chaque père, il y a un enfant, bien sûr, eux-mêmes, nous-mêmes, on agit bien envers nos parents. Quand on va bien agir envers nos parents, même si on est marié, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, ou il y a plusieurs années de mariage, et nos parents sont encore vivants, quand on va bien agir envers nos parents, Allah il va faire que nos enfants vont bien agir envers nous. Bien agir, ça veut dire qu'Allah va faire que nos enfants vont devenir pieux. Et si on est marié, et on agit mal envers les parents, Allah il va faire que les enfants aussi, c'est difficile pour devenir pieux. Une des conditions pour que les enfants deviennent pieux, que les parents ils agissent bien envers les enfants. Et il y a un hadith de Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, rapporté par Tabrani, où Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, birru aba'akum, tabarru abna'ukum. Birru aba'akum, tabarru abna'ukum. Soyez vertueux envers vos parents. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, vos enfants seront pieux avec vous. Soyez vertueux envers vos parents. Agissez bien envers vos parents. Faites ikram de vos parents. Faites khidmat de vos parents. Soyez au service de vos parents. Vos enfants seront pieux avec vous. Et Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il continue, dit, wa uffu ta'uffu nisa'ukum. Et soyez vous-même chastes. Vos femmes le seront également. Soyez chastes, ô vous les hommes. Vos épouses seront chastes également. Rapporté par Tabrani. Donc on voit également, le couple doit faire l'effort, le mari ou La femme, elle se marie, ou le mari se marie, même s'il y a deux maris, le mari se marie, d'accord, le jeune homme, il se marie, et il doit continuer à garder des relations avec ses parents, et des bonnes relations avec ses parents, afin qu'Allah Azza wa Jal va lui donner des enfants pieux. Ça, c'est une chose très importante. Et il y a également, pour avoir des enfants pieux, il y a fait un autre doa qui est très important également, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans Sourate Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en doa qu'il décrit les serviteurs du miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Et Allah fasse: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Allah, accorde-nous des épouses pieuses, des épouses qui vont devenir la fraîcheur de nos yeux, et des enfants qui vont devenir la fraîcheur de nos yeux. Et donc, que veut dire les enfants, ils deviennent la fraîcheur des yeux des parents? Qurrata a'yun veut dire, c'est que ces enfants, ils ont din. Ces enfants, ils n'ont pas din, ces enfants ne vont pas devenir la fraîcheur des yeux des parents. Il peut avoir les biens de ce monde, les parents, ils sont contents, mon fils, il a les biens de ce monde, apparemment, hein, il est content, mais les commentateurs du Coran disent, la fraîcheur des yeux des parents, c'est que quand les enfants, ils ont din, ça, ça emmène la fraîcheur des yeux des parents. Quand l'épouse, elle a din, ça emmène les fraîcheurs des yeux du mari. Alors, c'est un droit qu'on a besoin de faire également. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Et Allah fasse de nos épouses, et Allah fasse de nos enfants, ils deviennent la fraîcheur de nos yeux. Et si ces enfants, ils n'ont pas de dîn, alors ce ne sera pas la fraîcheur des yeux des parents. Puis, après avoir fait tous ces doigts, après avoir lu le doa pour avoir au moment des rapports intimes, et bien sûr il y a le couple, il y a beaucoup istighfar. En lisant beaucoup istighfar, également Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des enfants, et avec cela on doit faire pour avoir des enfants pieux. Comme Nuh alayhi salatu wa salam, il dit: Fakurtu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Je lui ai dit: Ya Allah, mon peuple, istaghfiru rabbakum. Demandez pardon à votre Rabb. Innahu kana ghaffara, il est pardonneur. Yursiri samaa alaykum midrara, va faire descendre pour vous la pluie. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, et va vous accorder des enfants, etc. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne des enfants. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de donner les enfants, on va voir que ce n'est pas la main de l'homme. Même les médecins, les scientifiques, ils reconnaissent qu'il y a une force. Comment ça, la conception de l'enfant dans la matrice de la maman, comment ça forme? C'est ajib. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cela. Au début de la grossesse, dès que la grossesse arrive, dès qu'il y a retard, d'accord, et que la grossesse arrive, Allah, il parle de cela dans le Coran. Comment la conception de l'enfant? Et si on regarde dans Suratul Mu'minun, au 18e juz du Coran, ça commence à partir du 12e verset. Wallah subhanahu wa ta'ala dit: Wa laqad khalaqna al-insana min salsalim min tin. C'est certainement, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. L'homme, Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salatu wa salam de la terre, d'un extrait d'argile. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Allah subhanahu wa ta'ala dit: il est celui qui vous a créé de la terre. Oui, Adam et Salah, tout ça, on a été créé de la terre, mais nous, depuis quand on a été créé de la terre, nous? On n'a pas été créé de la terre. Alors, il y a deux réponses, plusieurs réponses, entre autres, deux réponses faciles à comprendre. Un, on pourra dire qu'Allah ta'ala dit: je vous ai créé de la terre, c'est notre grand-père, Adam alayhi salat wa salam. Ou bien, deuxième réponse, les commentateurs du Coran nous ont expliqué: oui, on a été créé de la terre. Si on regarde tout ce qu'on mange, ça vient de la terre, non? Les fruits, légumes, le riz, etc. Et quand on mange, ça vient de la terre. Cette nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sa forme, des globules blancs, globules rouges, il y a la formation du sperme, etc. Et à travers cela, indirectement, L'homme, il a été créé de la terre parce que l'origine de sa consommation vient de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ طِينٍ. Certainement, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Et là, il voit que ce n'est pas lui qui fait. Fais-moi un enfant. Comment on peut faire un enfant? Allah ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Nous avons créé l'homme. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit puis nous en fîmes d'une goutte de sperme dans un réservoir solide, dans un reposoir solide. Cette goutte de sperme, on a mis dans la matrice de la maman, dans un reposoir, réservoir qui est solide. Deuxième étape. Mais pour pouvoir mettre dedans, si on a lu le doha avant, tout va marcher comme, hein, après, comme Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Alaqa, les médecins ils pourront expliquer tout ça. On ne va pas entrer dans les détails. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُذْرَةً. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Et c'est là maintenant les médecins, les gynécologues, etc. Ils peuvent voir, hein, après plusieurs semaines, peuvent voir c'est le début de la formation de l'enfant. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةَ عِظَامًا. Et nous avons créé, puis de cet embryon, nous avons créé des os. Ça devient, Allah il met les os dessus. Et nous avons revêtu les os de chair, Allah ta'ala dit. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Allah il monte toute la formation de l'enfant dans le ventre de l'enfant. 15 siècles avant, c'est la médecine aujourd'hui qui découvre maintenant l'étape, la procédure de la formation de l'enfant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Et nous avons revêtu les os de chair. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Nous lui avons donné une forme maintenant, complètement. Là, il a 4 mois. Là, c'est un bébé, déjà. Là, c'est un petit qui est dans le ventre, qui commence à grandir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, une parole ajib, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَتَبَارَكَ ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Comment, d'une goutte impure, que l'homme, il n'est pas prêt peut-être à laisser sur ses vêtements, de cette goutte impure, Allah azza wa jal, il crée, il donne ce coup à un enfant et il déclare à la fin Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah qui est le meilleur des créateurs. Comment? Et dans d'autres endroits dans le Coran, il y a Allah ta'ala, il parle des ténèbres. Dans les ténèbres de la matrice de la maman, Allah azza wa jal, 3 ténèbres, Allah ta'ala dit. Il y a 3 étapes de formation, hein, 3 fois 40 jours. Allah subhanahu wa ta'ala, il forme l'enfant. Comment Allah, il est puissant ainsi dans les ténèbres, et comment il nourrit cet enfant-là, ça c'est la kudra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, maintenant, c'est le début, tout au début de la grossesse. Et dès que le couple, dès que cette maman ou cette épouse, elle sait, hein, qu'elle est en voie de famille, la grossesse commence. Alors, que doit-on faire pendant la grossesse? Tout d'abord, dès qu'elle va apprendre, que le médecin va l'annoncer, ou bien il y a des symptômes qu'elle va connaître, des retards, etc., que certainement elle doit être en voie de famille, c'est la grossesse. Premièrement, elle doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit être reconnaissante. Elle doit faire le shukr d'Allah. Partir faire 2 rakat, remercier Allah. Et Allah, je te remercie que tu es en train de me donner un enfant là. Ah, première chose. Et fait le shukr. Et de lire beaucoup. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukru. Alors, bien sûr, on peut s'étonner. Hein, on ne dit pas cher frère. Des fois, on a l'habitude de dire seulement cher frère. Hier, une personne a dit, ben, dans les discours que vous faites, même il y a des dames, vous ne dites jamais chers mères et sœurs, on dit chers frères. Il faut dire un peu chers mères et sœurs. Alors, on a chers mères et sœurs, peut-être, Mais Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, dit, « Ya ayyuhalladhina amanu », c'est les musulmans, sont compris dedans aussi. Quand l'autre frère, il sait, quand dans le hadith, il y a « ismun ishara hein, »,« ismun mausul »,« man »,« man qala la ilaha illallah », »,« man », celui qui dit « la ilaha illallah ». On traduit « celui qui dit », mais il n'y a pas « celle », »,« celle » est compris dedans. « Man » en arabe, c'est pour « celui » et « celle ». Alors, dans le hadith, on prend les livres de hadith en arabe, si on prend les livres de hadith en arabe, alors on va voir qu'il y a man qala, celui qui dit, on traduit par celui. Alors cette femme, elle ne peut pas dire que ben, je suis privé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas parlé de moi. Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette femme également. Alors donc, pour ne pas peut-être vexer les dames qui sont présentes, alors de dire, hein, quand on dit cher frère, il ne faut pas se sentir vexé qu'on ne s'adresse pas aux dames qui sont présentes. Hein, c'est... C'est de... Hein, quand on dit donc, seulement chez un frère, il faut qu'on arrive à comprendre. Hein, les dames, les mères, etc. sont compris dedans. Donc, on était en train de dire... Allah subhanahu wa ta'ala était en train de donner tawfiq plutôt. De dire... que le chouk, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et ce qui est impressionnant, Allah montre même dans le Coran qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est en train de donner un enfant. Ibrahim alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Alhamdulillahi alladhi wahabali ala al-kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi la sami'u du'a » Il remercie Allah. Il dit toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui m'a accordé dans ma vieillesse un enfant, Ismaïl. Sourate Ibrahim, qui verset 39 de la sourate Ibrahim. Alors ce doua également, hein, qu'est-ce qu'Ibrahim et salat au samedi? Alhamdulillah, il l'a dit, toutes les louanges à Allah, wahabali, on revoit encore le mot wahaba, qui veut dire donner, accorder. Celui qui m'a accordé ala al-kibari dans ma vieillesse, Ismaïla wa Ishaqa. Il m'a accordé un fils Ismaïl et Ishaq. Inna rabbi la sami'un du'a. C'est certainement mon Seigneur. Il est celui qui entend des du'as. Donc, tout au début de la grossesse, alors on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement. Deuxièmement, augmenter les bonnes actions. Augmenter les bonnes actions. Cette épouse-là, cette future maman-là, cette mère-là, future maman donc, elle doit augmenter les bonnes actions. Bien sûr, elle fait la salat, etc. Mais elle augmente en plus. Elle augmente, elle fait plus. Parce que ça va automatiquement, systématiquement affecter l'enfant. Elle augmente dans le dua, dans les remerciements d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de remerciements d'Allah et beaucoup de dua pour son enfant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'accorder. Troisième point, c'est obligatoire pendant la grossesse, c'est pas que pour l'épouse, hein, le mari dit bon mais ça c'est pour ma femme et ça c'est pas pour moi, non, c'est qu'elle quitte les péchés. Pour que l'enfant ne soit pas affecté, hein, alors elle doit quitter les péchés pendant la grossesse, même après la grossesse, même avant la grossesse, tout le monde doit quitter les péchés, mais spécialement cette maman, cette femme qui elle est au courant qu'elle va avoir un bébé, alors elle doit quitter les péchés. Impérativement. Entre autres, parmi les péchés, on va énumérer quelques-uns. Elle ne doit pas, elle doit contrôler son regard pendant la grossesse. C'est pas elle attend un bébé, elle passe sa journée devant l'écran plasma, devant la télé. Ça affecte l'enfant, l'effet néfaste pour l'enfant. On ne dit pas que la télé n'est pas bonne, ça c'est un débat qu'on a déjà expliqué, etc. Elle va contrôler son regard, elle ne va même pas regarder un homme étranger avec envie. Ah. Et de là, on va voir, alors, contrôler son regard, c'est important. Contrôler son esprit, c'est important. Elle va s'abstenir d'avoir des mauvaises pensées sur quiconque sœur, autre sœur qu'elle va voir. D'accord, s'abstenir d'avoir des mauvaises pensées également. Et en ce qui concerne contrôler le regard, il y avait en Inde un grand savant, un grand alim qui s'appelait Allama Anwar Shah Kashmiri Rahimahumullah. Allama Anwar Shah Kashmiri Rahimahumullah, c'était tellement un très grand savant qui était à Deoban avant, puis quand il y a eu les petits problèmes à Deoban, il est parti dans le Gujarat, à Dabel là-bas et il est parti continuer à enseigner là-bas. Allama Nawasha Kashmiri rahimahumullah, il était tellement un grand savant que les gens, quand ils venaient auprès de lui, les ulama, posaient des questions masla, telle question. Alors, la dernière fois, il y a un alim qui est passé à Hazrat Mawlana Abbas, un de nos professeurs du Darum Zakaria, qui est passé au Darum Ashafiya à la plaine des Kaf là-bas. Il nous a raconté cela, une chose en plus. Il a dit que quand les ulama ils demandaient à Hazrat Mawlana, Allama Nawasha Kashmiri rahimahullah, un masla, alors Allama Nawasha Kashmiri rahimahullah, bien sûr, dans ses vieux jours, malade, il disait la réponse de cela, il y a 50 ans de cela, 60 ans de cela, j'ai lu, ça se trouve, il posait la question, dans quel livre vous voulez? Des livres imprimés à Beyrouth? Alors c'est telle page, tel livre. Si c'est un livre imprimé en Égypte, c'est telle page, tel livre. Si c'est un livre imprimé au Pakistan, c'est telle page, tel livre. Et si c'est un livre imprimé en Inde, c'est telle page, tel livre, pour les mêmes réponses. Quel livre vous voulez? Quel livre vous êtes habitué de voir? Si c'est en Inde, le livre a été imprimé, je veux vous dire, c'est telle page, tel livre, tel endroit, en haut, etc. Si c'est en Égypte, telle page, tel endroit, telle ligne. Tellement une mémoire adjib il avait. Allama Anwasha Kashmiri rahimahullah. Et bien sûr, hein, c'est connu d'Allama Anwasha Kashmiri rahimahullah. Un jour, il était en Égypte, à l'Azhar, à l'université là-bas. Il a trouvé un livre qui n'avait pas ni en Inde, ni au Pakistan, ni Bangladesh. Il a voulu emmener chez la personne, chez Lot, chez la personne qui l'a invité. Et ce n'était pas possible, c'était à consulter sur place. Quelques jours, il a lu ce livre de milliers de pages. Et au retour en Inde, il a réécrit ce livre. Il a réécrit le livre et il a envoyé le livre pour les ulama d'Égypte. Il dit de regarder s'il n'y a pas d'erreur dedans. Ces ulama d'Égypte, quand ils ont vu ce livre, ils ont lu et ils ont constaté qu'un endroit, il a oublié un point. Ils l'ont écrit, ils ont dit « Cher, tu as oublié un point. » Imaginez la mémoire d'Allama Anwasha Kashmiri rahimahullah. Imaginez sa piété. Il a écrit un livre, un des commentaires de Sahih al-Bukhari, il a écrit également. Pourquoi? Alors, ulama, ils expliquent que sa maman, elle avait beaucoup de qualités. Entre autres, la maman, pendant la grossesse, et pas seulement pendant la grossesse, avant et après la grossesse, elle avait jamais regardé un homme étranger. Avec envie, jamais. Regarde, jamais tombé sur un homme étranger même. Avec envie. Elle a protégé son regard. Allah, il a donné un fils d'une mémoire exceptionnelle. Et deuxième qualité qu'elle avait, on va venir au moment de l'allaitement également, c'est qu'elle allaitait toujours son fils en état de wudu et avec salat ala nabi, avec durud sharif. Donc, les débuts de la grossesse, c'est augmenter les bonnes actions, s'abstenir des péchés, contrôler le regard, contrôler l'esprit, bien sûr mentir, faire la médisance, etc., s'abstenir. Et on sait que pendant la grossesse, une femme qui fume, une femme qui boit de l'alcool, etc., il y a des effets néfastes pour l'enfant, hein, même ça va attaquer, même une goutte d'alcool. La dernière fois donc, le docteur, notre ami, docteur Rachid, était en train de dire, même quelques gouttes d'alcool que la femme elle va boire en état de grossesse, ça va affecter le cerveau de l'enfant. Déjà, chikungunya même affecte l'enfant. Si chikungunya moustique affecte l'enfant, mais péché ne va pas affecter l'enfant. Automatiquement, c'est obligatoire. Alors comment moi, hein, si l'alcool, la cigarette, la danse, la musique, etc. vont affecter l'enfant, alors les péchés, comment ça ne va pas affecter l'enfant? Et les bonnes actions, raison de plus, ça va affecter l'enfant. Puis, certains ulama, ils expliquent, pendant la grossesse, c'est de lire ce doa beaucoup. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. C'est la maman de Marie, la maman de Maryam alayha salatu wa salam, cette femme-là, de Ali Imran, de la famille de Imran, quand elle était en voie de famille, elle attendait un enfant, elle a fait ce doa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Allah, l'enfant que tu vas m'accorder, je vais donner pour ton digne. Accepte cet enfant. Et elle voulait un fils. Allah a donné une fille. Et de ce fils, un nabi est né, bien sûr. Ensuite, on sait qu'à partir de 4 mois, il y a un ange qui vient. Et qui vient sous l'ordre d'Allah. Il vient écrire 4 choses. Hein, son risque, la subsistance, sa vie, sa mort, etc. Et ensuite, est-ce qu'il demande à Allah, est-ce que j'écris cet enfant, il est Saïd ou shaqi, est-ce que ce sera une personne heureuse ou malheureuse, ou bien est-ce qu'il aura din, il n'aura pas din, etc. C'est après 4 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala y met l'âme. Donc durant cette période du début de la grossesse jusqu'à 4 mois, pour qu'Allah prenne une bonne décision, il faut automatiquement rester dans des bonnes actions, bon amal, s'abstenir des péchés, même après 4 mois, continuer également. Puis il y a, pendant la grossesse, de lire beaucoup les récits, la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Siratul Nabawi. Malheureusement, en français, on est pauvre un peu, entre guillemets, si on peut dire, des livres sur la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelques livres qui sont très bien. Sinon, les athlètes, si on lit, si on voit quelque chose qui ne va pas, alors il faut prévenir à la main, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Donc, pendant la grossesse, les ulama expliquent de lire beaucoup Siratul Nabawi. Pendant la grossesse également, de parler beaucoup d'Allah. Hein? Parler d'Allah avec son mari. Parler d'Allah s'il y a d'autres enfants. Parler d'Allah avec d'autres personnes. Donner da'wah sur la grandeur d'Allah. Pendant la grossesse, de faire ta'lim aussi à la maison. On va arriver dans la maison pour que l'enfant il ait une bonne éducation, qu'il y ait ta'lim à la maison. Cette maman, cette femme qui est au début de la grossesse, alors elle doit faire ta'lim avec ses enfants de la maison, avec son mari de la maison. Et quand elle est seule également, elle va prendre Muntakhab Aharif, elle va prendre Fadail et Amal, elle va prendre Hayatul Sahaba, ou n'importe quelle sorte de livre de din, bien sûr des livres qui sont corrects. Et là, elle va, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire pendant sa grossesse et Inch'Allah, il y aura un effet positif. Puis, pendant la grossesse également, de faire souci de manger halal. Parce que si cette maman, cette future maman, cette épouse, cette femme qui est en voie de famille, elle ne mange pas halal, alors ça va affecter l'enfant aussi. Hein? Alors elle doit s'abstenir, elle doit faire très attention, ponctueuse, demander à son mari d'où ça sort la nourriture, est-ce que c'est halal, c'est pas halal. Ça c'est un grand fikr, elle doit avoir. Et bien sûr, elle doit être pendant toute la durée de la grossesse, heureuse, gaie, éviter le stress, etc. Ça, ce sont les ulama, ils expliquent ainsi. Puis arrive le moment où le choix des noms. Le couple va s'asseoir et va se poser la question quel nom faut choisir pour l'enfant. Alors maintenant, c'est devenu une mode, et une très grande mode, c'est de choisir des noms fantaisie. Je ne sais pas si on dit fantaisiste, c'est des noms, fantaisiste. Alors, des nouveaux noms, des noms que ça n'existe pas. On sera la première à la Réunion à mettre un tel nom. On maîtrise cela. Il n'y aura personne et tous les enfants qui vont mettre les mêmes noms que soi. Alors, on sera fiers. On cherche des noms, de toutes sortes de noms. Il y a, on a vu un nom, Ajib, le livre de prénoms, les prénoms des enfants en arabe et en français qui s'assortent en France. On a jeté un coup d'œil. Il y a le nom de Mahatma dedans, Mahatma Gandhi. Mahatma. Où il y a des noms des ancêtres des Sahaba qui n'étaient même pas musulmans. Parce que c'est le nom des Arabes, on met dedans. Tu es en train de regarder, quelqu'un l'a fait envoyer, dit vérifier. Subhanallah, on a tombé sur des noms. Il dit ça, c'est tel ancêtre de tel prophète, de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de d'autres Sahaba. D'accord? Mais ils n'étaient pas musulmans. Il y a des noms, Allah même sait. Alors ça ne veut pas dire que c'est un livre de prénoms islamiques, prénoms, des noms. Hein, des prénoms, ben il faut prendre cela, il faut regarder les plus jolis noms qu'il n'y a pas. Non, mes frères. On répète, quand on dit les frères, les sœurs, les dames sont compris dedans. Alors, quels sont les noms qu'on doit choisir? Il y a 4. Parmi les noms des prophètes, on choisit pour nos enfants les noms des sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, awliya Allah, d'accord? Les 3 noms, anbiya alayhi salatu wasalam, sahaba et awliya Allah. Si on va regarder le nom des prophètes, de nos jours, on ne met plus. Fin de vue de nos jours, les enfants qui naissent, on met le nom, on met le nom des prophètes, alayhi salatu wa salam, mais plus, ça, c'est plus la mode. Est-ce que quelqu'un appelle encore son fils Youssouf? Est-ce que quelqu'un appelle encore son fils Ismaïl? Est-ce que quelqu'un il appelle encore son fils Ilyas? Est-ce que quelqu'un il appelle encore son fils, je ne sais pas moi, Mohammed? Est-ce que quelqu'un il appelle encore son fils Yaqub? C'est des noms que Allah fait, on ne trouve plus. Observons, on va voir, on ne trouve plus. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est la réunion entière, hein, de notre famille. Même il y a Yaakoub par là, il y a Ismaïl par là. Pourquoi on va mettre notre fils Ismaïl? Pourquoi on va mettre notre fils Yahya? Pourquoi on va mettre notre fils? On va se sentir, c'est une honte pour soi. D'accord? Alors non, parmi les noms qu'on doit choisir, c'est les noms des Anbiya alayhi salatu wa salam. On va donner l'exemple de Anbiya alayhi salatu wa salam. Le nom des Anbiya alayhi salatu wa salam, il y a, d'un hadith, il y a un hadith rapporté par Abu Daoud, cité également d'Ahmad ou Ibn Wahb. Ibn Wahb, radiyallahu ta'ala anhu, il cite un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, utilisez les prénoms des prophètes. Utilisez les prénoms des prophètes. Mettez le nom. À la réunion, on a l'habitude de dire le nom, mais c'est des prénoms. Mettez le prénom, hein, prénommez vos enfants le nom des prophètes, alayhi salatu wa salam. Ça, c'est hadith. Dans le Coran, il y a, quand, d'autant plus de nos jours, on parle beaucoup de l'apparition de soi-disant Jésus, alors soyez sûrs que Jésus n'est pas apparu dans aucun endroit de la réunion. Il va faire son apparition à l'heure voulue, en chair et en os. Il y a, quand Mariam, alayhi salatu wa salam, la maman de Jésus, ramène son fils Isa, alayhi salatu wa salam, en ville, qui vient de naître. La naissance de Jésus aussi est exceptionnelle. Alors les ulama expliquent, soit Jésus, Isa alayhi salatu wa salam, il avait 7 jours, soit il avait 40 jours seulement. C'était après le nifas. En ce qui concerne le nifas, on va venir sur, hein, à la naissance. On risque d'oublier, c'est pour ça qu'on préfère dire tout de suite. À la naissance, hein, au nifas, malheureusement, les dames, elles ont compris, ben, le nifas dure impérativement 40 jours. Ça veut dire quand les lochis, si on ne se trompe pas, nifas en français on dit les lochis, quand le sang du nifas après l'accouchement, elle arrête, aussitôt que ça s'arrête, si ça s'arrête 2 jours après même l'accouchement, ou une semaine, 15 jours, il faut qu'elle douche, elle prend son bain et la vie continue, elle commence à faire la salat. Malheureusement à la réunion, les calas, on peut dire, les vieilles dames, elles ont compris, c'est systématiquement 40 jours les lochis. Ça veut dire que sa fille, elle a, sous l'ordre d'Allah, elle a enfanté. Les lochis sont arrêtés, le sang est arrêté au bout d'une semaine. La maman de la fille qui vient de mettre au monde un enfant, la grand-mère de l'enfant, si on peut dire, la grand-mère, ces mamans-là vont dire non, fais pas namaz tout de suite, attends 40 jours. C'est pas 40 jours qu'il faut attendre. 40 jours, c'est les limites, la fin. Après 40 jours, s'il y a encore le sang, le lochis, le sang qui coule, alors là, elle doit prendre son bain et elle doit faire. Hein, etc., les actions. Mais si ça arrête avant le sang de l'accouchement, même au deuxième jour de la naissance, même au jour de la naissance aussi, c'est prouvé, ça s'arrête, le jour, le lendemain, fini, elle recommence la salat. C'est pas 40 jours. Comprenons bien, c'est 40 jours, ça c'est comme les périodes de menstruation, de 3 jours à 10 jours, ça c'est les limites, 10 jours. Après 10 jours, elle doit se doucher, d'accord, prendre son bain, si ça saigne, on va considérer comme istihada. De la même façon, le lochi, ça s'arrête, le sang après l'accouchement, aussitôt que si ça s'arrête, même avant 40 jours, elle doit prendre son bain et la vie continue, rentrer dans un fanamaz, etc., ce qu'il y a à faire. Alors, donc, c'était Isa alayhi salatu wa salam, que la maman porte, Marie, après avoir pris, hein, après la naissance de Isa alayhi salatu wa salam, elle arrive en ville avec le bébé dans la main. Les gens, quand ils ont vu Marie, bien sûr, ils connaissaient les gens qu'elle n'était pas mariée, Marie, Mariam alayhi salatu wa salam. Ils ont vu avec un bébé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Ya Urta Haroun, oh la soeur de Haroun, d'où ça sort cet enfant-là? Ta mère n'était pas une mauvaise femme, ton père n'était pas une mauvaise personne, etc. D'où ça sort cet enfant? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ya Urta Haroun. Oh la sœur de Haroun. Quel Haroun? C'est pas le Haroun du frère de Moussa alayhi salatu wa salam, parce que c'est des centaines d'années de séparation, de siècles qu'il y a eu entre Moussa alayhi salatu wa salam et Isa alayhi salatu wa salam. C'était que Mariam alayhi salatu wa salam, elle avait une fille, elle avait un frère plutôt. Ce frère s'appelait Haroun. Et les gens de l'époque, ils avaient l'habitude de mettre leurs enfants le nom des Anbiya alayhi salatu wa salam. Donc, s'il y a choisi un nom pour un de nos enfants, choisissons les noms des Anbiya alayhi salatu wa salam. Comme il y a dans le hadith. Deuxièmement, le nom de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aussi. Dans un hadith cité par Jabir radiallahu ta'ala anhu, ce hadith, il y a dans Bukhari, dans Muslim, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Prénommez-vous par mon prénom. Donnez le nom de vos enfants par mon prénom qui est Muhammad, mais ne vous surnommez pas par mon surnom. Je suis Abul Qasim, celui qui partage, je partage entre vous. Mon surnom, Abul Qasim, ne surnommez pas personne Abul Qasim, mais prénommez vos enfants par mon prénom qui est Muhammad. » Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, par Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Alors on a vu donc les noms d'Anbiya alayhi salatu wa sallam, le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, on a honte d'appeler nos enfants Muhammad. Il y a 50 Muhammad à la Réunion. Combien Muhammad il y a à la Réunion? Muhammad, Mustafa, ça ce sont des noms de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. En plus c'est la mode maintenant avec la chanson Mustafa, hein? C'est la mode Mustafa, Mustafa. Alors ce sont des noms. Ahmad, Ahmad aussi c'est un des noms de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une chose. Donc on vient de voir les prénoms des Anbiya alayhi salatu wa sallam. Ensuite il y a un hadith rapporté par عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى meilleur des prénoms, meilleur des noms que Allah il aime le plus. C'est quoi? Abdullah et Abdurrahman. Ça ce sont des noms que mes plus aussi ça. Appeler son fils Abdullah, subhanallah. Et Abdurrahman. Abdurrahman c'est pas Maman ou Rahman. Des fois on dit Rahman. Hein, ça c'est Rahman, je te présente Rahman. Se présente Rachid. C'est ni Rachid ni Rahman, c'est Abdur Rachid. C'est Abdur Rahman. On déforme les noms à la Réunion, on est des experts pour déformer les noms. On est dans la présence des experts, c'est pour ça, dans tous les domaines. Et il y a Rahman, on appelle, comment tu t'appelles Rahman? Non, c'est pas Rahman, c'est Abdur Rahman. Et appeler quelqu'un Rahman, c'est interdit parce que Rahman est spécifique pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de l'appeler Rahman. C'est Abdur Rahman, le serviteur de Rahman. Et cette riwayat, il y a Harif également. Harif également de l'appeler. Ça, c'est le nom des Anbiya alayhi salatu wa salam, le nom que Allah il aime le plus, Abdullah, Abdur Rahman, Harif, etc. Puis le nom des Sahaba radiallahu anhu majma'i. On cherche un prénom. Ouvrons, facile de trouver. Hayat al-Sahaba, ou bien Muntakhab Ahadith. Il y a tellement de noms de Sahaba qu'on n'a jamais entendu. Irbaz, c'était un grand sahabi. Il y a beaucoup d'autres noms également. Recherchons, mettons nos enfants le nom des sahaba radiyallahu anhu majma'in. Une question qui se pose là, est-ce que le nom affecte l'enfant? Le nom, est-ce qu'il y a un effet sur l'enfant, oui ou non? Hazrat Maulana Khalid Saifullah Damat Barakatuhum, dans un de ses livres, il écrit Kitab al-Fatawa, ou bien un de ses livres, il écrit, il dit oui, le nom affecte l'enfant, et il emmène des preuves à l'appui que, Inch'Allah, ce sera pour une autre fois. Donc ça c'était en ce qui concerne le choix des noms. Maintenant c'est la naissance de l'enfant. Alors la naissance de l'enfant, même les derniers moments, tant que l'enfant n'est pas sorti, si c'est l'heure de la salah, il faut faire la salah. Hein, même si c'est à l'hôpital aussi. Même si c'est à l'hôpital et l'enfant n'est pas encore venu au monde et l'heure de namaz va terminer. Là aussi, il faut faire namaz, il ne faut pas rater namaz. Hein. Même si on est sur la table aussi, où l'enfant n'est pas encore sorti, c'est l'heure de namaz. Attends, alors on couvre, on fait namaz. On n'a pas namaz. À ce moment-là aussi, il faut faire namaz. La salah, la prière, etc. Puis quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'enfant et l'enfant il arrive sur cette terre, il y a ce qu'on appelle qu'il faut donner dans l'oreille de l'enfant adhan, l'oreille droite, puis dans l'oreille gauche iqamat. Et là on associe, il faut appeler molissab. Appelle molissab parce que le molissab on a considéré comme c'est un prêtre, il va bénir l'enfant, il vient bénir l'enfant. Le molissab n'est pas là pour bénir l'enfant, hein? On n'est pas comme les autres religions. Le père lui-même, il peut donner adhan sans problème. Le père, s'il est pieux, déjà, il faut qu'il connaisse adhan. Il ne va pas donner en français adhan aussi. Ça, c'est grave. Il faut qu'il connaisse adhan. Il donne à la façon sunnat adhan. Hein? Alors, au moment de de la naissance, donc pour donner, il faudra donner à 20, inshallah.